Bonjour, je vais essayer de vous présenter quelques principes pour guider un petit peu vos marchés d'acquisition de ressources numériques. En fait, la démarche que je vous propose en fait est la suivante, c'est de s'intéresser un petit peu aux usages qu'on veut développer, qu'on veut encourager. À partir de ça, peut-être de s'interroger sur les solutions techniques qui doivent être mises en œuvre pour qu'effectivement les usagers trouvent leur compte et qu'il y ait une activité significative en matière d'accès aux ressources numériques, et du coup de voir les dispositions peut-être qui sont à retenir dans le marché. Donc ça sera assez complémentaire de ce qui a été vu. Donc en fait là, ce que j'ai pris, c'est la copie de ce que j'ai trouvé sur un site de bibliothèque. Je n'ai pas eu à chercher longtemps, mais sur ce site, je ne sais pas si c'est comme ça sur certains de vos portails, j'espère que non, les ressources numériques sont simplement proposées sous forme d'une liste. Là, j'en vois que quatre, mais dans le portail en question, je crois qu'il y en avait sept ou huit. Et en fait, l'usager, c'est avec ça qu'il doit déterminer la ressource qui répond à son besoin. C'est-à-dire que l'usager, en fait, s'il s'intéresse vraiment à une recherche particulière, il va falloir qu'il parcourt une longue liste de titres afin qu'il identifie ceux de ces titres qui répondent peut-être, potentiellement, à la recherche qu'il est en train de faire. Donc, déjà, le titre de la ressource ne dit rien. Caféine, pour le commun des Français, ça ne dit pas grand-chose, hein. Et même une fois qu'on a le descriptif à côté, c'est très difficile de se dire, ma requête que j'ai faite dans le catalogue de la bibliothèque, je vais l'adresser une nouvelle fois à Caféine, je vais l'adresser une nouvelle fois à la médiathèque numérique, etc. Donc il y a un problème de représentation. Et en plus, comme ces offres sont très mal connues d'une manière générale, parce que c'est des offres payantes, le nom ne veut rien dire, mais même la représentation que la plupart des usagers en ont est tout à fait limitée. Donc ça va être très difficile pour eux de se dire, c'est là qu'il faut que j'oriente ma recherche. Donc ça va être difficile de développer les usages si l'usager doit déjà commencer par lire des listes de titres sans vraiment avoir de représentation préalable, et donc ils vont avoir du mal à identifier ce qui correspond bien à leurs besoins. Une fois qu'ils ont trouvé une ou deux ressources qui peuvent convenir, il va falloir faire l'effort, dans ce cas de figure particulier, d'aller sur le site, d'utiliser le moteur de recherche spécifique du site avec sa logique de recherche, sa logique de navigation, etc. Et puis faire l'effort d'apprendre celle de la ressource d'à côté. Donc on a des freins vraiment significatifs du fait de la multiplicité finalement de ces différentes logiques. Et si on n'y prend pas garde, la ressource peut très bien aussi demander à l'usager, une fois qu'on a cliqué sur une ressource qui était intéressante, de créer un compte et puis de se réidentifier. Donc il a fallu d'abord qu'il s'identifie sur le portail de la bibliothèque, il a fallu qu'il apprenne à utiliser les moteurs de recherche de chaque ressource. Et une fois qu'il trouve une ressource, on lui dit crée-toi un compte avec une syntaxe en général bien particulière et pour l'identifiant et pour le mot de passe. Et il va falloir qu'il se souvienne de cela pour la prochaine utilisation. Donc en pratique, les ressources numériques pour l'usager, ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez en haut et ici, c'est des usagers qui essayent d'accéder aux ressources numériques, d'emprunter un livre numérique. Et là, c'est les bibliothécaires qui essayent de rendre tout ceci accessible. Parce qu'en fait, la difficulté qu'on vient de pointer, elle vous retombe dessus. Parce qu'on est au départ sur un monde qui est très très hétérogène de ressources numériques qui n'ont pas été faites, bien sûr, puisque on a plutôt une situation de concurrence pour, s'appuie pas en tout cas sur des bases communes. Donc vous allez récupérer d'une manière ou d'une autre des choses extrêmement hétérogènes qu'il va falloir essayer de rendre accessibles aux usagers. Sinon, on constatera, comme dans beaucoup d'établissements, que malgré un budget significatif, la ressource numérique, elle ne connaît pas forcément le succès que l'on espérait. C'est-à-dire qu'il y a des usages qui sont limités. Et quand on s'intéressera à qui utilise ces ressources, il y a de fortes chances qu'on retombe sur des CSP+, qui connaissaient déjà ces ressources d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, ça risque de passer à côté de votre mission première, qui serait peut-être de rendre ces ressources accessibles à tous. Donc il y a vraiment une difficulté spécifique avec les ressources numériques du fait de, disons, l'hétérogénéité de ces ressources. Alors que souhaite-t-on faire? En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est, je ne sais pas si ça apparaît, c'est tout petit, c'est banaliser les ressources numériques. C'est-à-dire que pour l'usager, ce ne soit pas plus compliqué d'accéder à une ressource numérique que de consulter le catalogue ou de consulter son compte. Ça, c'est un des premiers objectifs. Deuxième objectif, ce serait peut-être de proposer sur un pied d'égalité tout ce qui est documents sur support physique et les documents en ligne qui répondent à la demande d'un usager, qu'on n'ait pas des procédures d'accès extrêmement différentes avec des logiques de consultation qui seront particulières à chacune des ressources. On va vouloir aussi limiter la complexité qui découle de la multiplicité des ressources numériques, hein, ça c'est un point important, et si possible, bah, faciliter ensuite l'accès à la ressource une fois qu'on a cliqué sur la référence qui nous intéresse, enfin qui intéresse l'usager. Donc en pratique, pour faire tout ça, bah, on peut utiliser des solutions techniques un petit peu plus précises. Donc, je n'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Consulter les bases de référence des ressources numériques de la même manière que le catalogue, ça, ce serait déjà un succès pour l'usager, c'est de ne pas avoir des logiques différentes d'accès à la ressource numérique. Et c'est souvent très compliqué, ne serait-ce que parce qu'il y a des niveaux de description qui sont variables d'une ressource à l'autre. Si on vous propose un côté que des titres de périodiques et que de l'autre, on vous propose du dépouillement, ou pour les bases d'auto-formation aussi, il y a des niveaux de description qui sont extrêmement variés, rapidement, on est paumé. En fait, je pense qu'il n'y a pas que les usagers qui sont paumés, hein, même les bibliothécaires à un moment ou à un autre, parce qu'il faut avoir la représentation de toutes ces logiques de recherche, de tous ces traitements documentaires qui sont effectués, de tous ces langages documentaires qui sont mis en œuvre. Et à un moment ou à un autre, en fait, on ne peut pas mémoriser tout ça si on n'en a pas une utilisation quotidienne. Donc, par rapport à la médiation des ressources numériques, c'est aussi un souci. C'est que les professionnels eux-mêmes rencontrent probablement des difficultés du fait de cette situation. Lors d'une recherche, donc, il faudrait pouvoir solliciter simultanément le catalogue et les bases de métadonnées de toutes les ressources numériques. On va voir qu'il y a différentes solutions pour ça. Donc, ce qui serait encore mieux, c'est de proposer un outil de recherche qui harmoniserait les résultats avec, si possible, des facettes mises en cohérence. La navigation à facettes, ça a quand même apporté un certain confort à l'usager. Autrefois, les opaques étaient très silencieux. Avec la recherche à la Google, on a eu des opaques qui sont devenus bruyants. Mais les facettes ont permis de, finalement, s'adapter à ce bruit en restreignant petit à petit à ce qui nous intéressait. Et comme c'est un petit peu ce qu'on trouve aussi sur les moteurs de recherche, du commerce, ben finalement, l'usager sait à peu près servir de ça. Mais si on propose un catalogue avec des facettes qui sont fort bien faites et qu'à côté on propose des ressources numériques qui n'auront pas de facettes ou qui auront leurs propres facettes, ben, on va voir déjà, on a parlé de la question des définitions tout à l'heure, mais il est évident que l'un va parler de périodique, l'autre de revue, l'autre de quotidien, etc. Et il y a des usagers qui vont être déjà perdus parce que les facettes, elles vont être un petit peu, avec des appellations qui sont propres à chaque titre. Donc il y a un souci aussi sur cette mise en cohérence. Et enfin, l'idéal, ce serait de dispenser l'usager de toute création de compte supplémentaire, hein, sur une ressource numérique et de toute nouvelle identification. Mais il y a bien les deux choses, hein. Il y a la création de compte et il y a l'identification. Souvent, on parle simplement d'authentification, de signature unique. Ce n'est pas toujours suffisant. Il faut aussi qu'on reconnaisse, quand on est un éditeur, ce qui provient du site de la bibliothèque et qu'on n'ait pas d'incertitude sur le fait que c'est bien un usager régulièrement inscrit. Et donc, on va voir un petit peu comment procéder. Alors, comment faire pour tout ça? Là, ça va être écrit un peu plus gros. Donc, moi, déjà, je vais voir. Vous, je ne sais pas, mais moi, je verrai sur mon écran. Pour répondre aux deux premiers objectifs, hein, qui étaient d'avoir une base de référence des ressources numériques qui se consultent de la même manière que le catalogue et, lors d'une recherche, pouvoir simultanément solliciter l'un et l'autre, il y a une solution technique qui est apparue, en fait, avec les opaques de nouvelle génération, qu'on peut appeler la recherche unifiée. On a un moteur de recherche. Donc, c'est généralement un outil qui s'appelle Solr ou Elasticsearch. Et on verse dedans le catalogue, comme on va verser les métadonnées issues de chaque ressource numérique. Et c'est en fait l'outil de versement des métadonnées qui va faire une mise en correspondance en disant, bah, tiens, le titre, c'est ici qu'il faut aller le chercher, l'auteur, c'est là, mais j'ai aussi pioché sur telle notion, sur un éditeur, parce que c'est vu parfois comme un auteur ou je ne sais quoi. Et on va mettre en correspondance, en fait, toutes les zones du moteur de recherche avec les zones qui proviennent du catalogue d'une part et de chaque titre de ressources numériques d'autre part. Donc, l'intérêt de cette solution technique, c'est qu'on récupère ces métadonnées à froid et donc on va pouvoir, grâce au moteur de recherche, préparer des facettes homogènes, que ce soit à propos de votre catalogue ou que ce soit à propos des métadonnées des ressources numériques. Donc, on aura pour l'usager vraiment une recherche unifiée, dans le sens où, en une seule requête, on lui donne les résultats. Et les résultats sont présentés sur un pied d'égalité, que ça vienne du catalogue ou des ressources numériques, avec une mise en cohérence des facettes. Alors, tout à l'heure, on a parlé des éditeurs qui font payer les connecteurs. Bon, je n'ai pas l'habitude de défendre les éditeurs de SIGB, mais derrière, il y a un vrai boulot, hein, de faire ces connecteurs. Il faut faire les mises en correspondance. Les éditeurs font changer leur traitement documentaire, font évoluer leur base, etc. Et ben, ce travail, il faut bien qu'il soit financé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ce serait bien de l'inscrire dans les clubs utilisateurs pour que le club utilisateur négocie une fois pour toutes et supporte les frais. Ça, ce serait très, très bien. C'est pour ça que je trouve que c'était une bonne idée que la Fulbi reprenne le relais là-dessus. Mais il y a un travail derrière. Et il y a aussi, on verra après, la question des solutions de signature unique, là techniquement c'est encore plus compliqué et il y a un travail qui dépend aussi de la multiplicité, de la diversité des ressources numériques. Donc il faut qu'il soit d'une manière ou d'une autre rétribué ce travail. En fait, ce qui ne va pas avec un modèle gratuit sur ce point-là, c'est qu'on est sur des abonnements qui sont sans cesse renouvelés. Donc ce qui marche à un moment, ben, l'année d'après ça ne marchera plus. Donc l'éditeur, il va pas continuer, enfin l'éditeur de SIGB, il va pas faire les modifications gracieusement, ou alors il faut qu'ils se financent sur la maintenance et les coûts de maintenance vont évoluer. Alors il y a une deuxième solution technique hein, qui est a priori moins intéressante, mais qui pourra répondre quand même à peu près au deuxième objectif qui est de proposer finalement les résultats d'une recherche en sollicitant aussi bien le catalogue que les différentes ressources numériques, c'est qu'on peut appeler la recherche fédérée. La recherche fédérée, c'est très différent de la recherche unifiée. On a une requête d'un usager et on va traduire la syntaxe de cette requête de manière à ce qu'elle soit comprise par chacune des bases de ressources numériques qu'on va vouloir solliciter. Donc, pour une ressource numérique qui aura telle syntaxe, il va falloir reformuler la question de l'usager en adaptant une grammaire particulière. Pour une autre ressource, ce sera une autre syntaxe, etc. Alors, ce qui est très compliqué, en fait, dans ce modèle-là, c'est qu'on a besoin de s'appuyer sur des bases de connaissances qui vont expliquer aux outils comment construire ces syntaxes ressources numériques par ressources numériques. Et donc là, la valeur, ce qu'on paye en fait quand on veut avoir un service de recherche fédéré, c'est l'utilisation en fait de cette base de connaissances. Et cette base de connaissances, pour la préparer, il faut que les éditeurs connaissent très très bien et profondément la structure des bases de référence des différentes ressources numériques. Donc ils ont toujours un temps de retard. Et donc, du coup, ce qu'on peut reprocher à la recherche fédérée, outre le fait qu'elle ne sera pas générée de facettes, hein, puisque c'est fait à chaud, ça, ce n'est pas des facettes qui peuvent être préparées à froid, comme dans la première solution technique, mais le premier inconvénient, ça va être qu'on aura des résultats qui seront affichés probablement ressource par ressource, éventuellement dédoublonnés, mais en tout cas, on n'aura pas de facettes pour tout ce qui vient des ressources numériques. Donc, on va proposer à l'usager quelque chose de relativement hétérogène, puisqu'il y aura d'un côté ce qui provient du catalogue, qui sera propre, et de l'autre côté, probablement, ce qui provient de chacune des ressources numériques. On verra qu'il y a une petite variante de cette solution qui est assez intéressante, mais j'en parle un peu plus tard. Donc, il va falloir, pour que l'usager ait un certain confort et qu'il n'ait pas à se créer de compte, obtenir des éditeurs une délégation. C'est-à-dire que, quelque part, il va falloir qu'il vous accorde une certaine confiance. C'est-à-dire que la bibliothèque s'engagera, en fait, à n'offrir l'accès aux ressources numériques qu'à des usagers régulièrement inscrits, en tout cas pour ce qui est de l'offre à distance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il y aura besoin de mettre en place une solution de signature unique. Ce serait plus juste de dire d'authentification unique. C'est-à-dire que l'usager, dès lors qu'il se sera connecté à son compte en saisissant son identifiant à la bibliothèque, c'est-à-dire une adresse de mail valide, si tout va bien, et son mot de passe, peut-être France Connect aussi, si vous avez bien fait les choses pour qu'il n'ait pas un mot de passe spécifique à la bibliothèque, il aura automatiquement accès non seulement à son compte à SIGB, mais aussi à toutes les ressources numériques. On ne lui demandera plus de s'identifier à nouveau. Donc on aura une fluidité complète, en fait, dès lors qu'il aura la recherche unifiée d'un côté et cette solution de signature unique de l'autre. Ben, quand il cliquera sur une référence d'une ressource numérique, il passera à la consultation de la ressource numérique. Et donc là, on aura vraiment banalisé les ressources numériques d'une certaine manière. Donc du coup, en violet, ce qui apparaît, ben, c'est ce qu'il va falloir proposer ou imposer plus exactement aux éditeurs dans les marchés. Si on veut proposer un service de recherche unifié, il faut qu'on ait le droit de copier les métadonnées pour les charger sur son outil de recherche. Or, parfois, vous avez surtout quand on travaille avec un intermédiaire, par exemple CVS, il me semble que CVS ne propose pas cette possibilité que l'on copie ces métadonnées sur notre propre outil de recherche. Ben, tout simplement parce que CVS n'a pas obtenu ce droit de la part des éditeurs avec qui CVS travaille. Donc bien souvent, on a des difficultés, mais c'est des difficultés qu'on ne pourra pas arriver forcément à traiter parce qu'il y a un blocage à un autre niveau, puisque votre fournisseur n'a peut-être pas lui-même le droit de diffuser ces métadonnées. Pour que vous ayez le droit de les copier, il faut que lui ait le droit de les diffuser. Donc ça peut être un point de blocage. Et parfois, du coup, la recherche unifiée, elle sera impossible à utiliser puisqu'on n'aura pas ce droit de copie. Et du coup, on sera obligé de se replier sur un service de recherche fédéré. Dans le cas de la recherche fédérée, ce qui est compliqué, c'est d'avoir les informations qui nous expliquent la structure de la requête qu'il faut présenter pour que on sache rapatrier les résultats et les présenter de manière harmonieuse à l'usager. Donc là, il y a une exigence de transparence dans la solution technique et il faudra qu'on ait probablement un intermédiaire qui nous aide à mettre en place ce type de service. La vraie faiblesse de cette partie-là, c'est quand même l'évolution régulière des ressources numériques. Et l'éditeur qui fait évoluer sa ressource numérique, sa première réaction, c'est probablement pas de dire « Ah oui, tiens, il faudrait que j'explique que maintenant, les requêtes, elles ne doivent pas être adressées de la même manière par les outils de recherche fédérée. » Il y a forcément un décalage et quelque chose qui prendra du temps pour l'identifier, d'une part. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Les éditeurs, si déjà ils nous informaient des évolutions, ce serait une bonne chose, mais parfois, ils n'ont pas ce réflexe-là. Et enfin, il faut que l'intermédiaire qui vous aide à mettre en place ce type d'outil se réapproprie cette solution, la développe, la teste, et puis qu'ensuite ce soit implémenté chez vous. Donc si c'est passé que 6 mois entre le début et la fin, c'est tant mieux, mais ce n'est pas un délai qui est excessif, 6 mois, par rapport à une telle situation. Donc du coup, ça veut dire que pendant 6 mois, la ressource va être quasiment inutilisée parce qu'il faudra revenir à mon premier écran, il faudra aller cliquer sur telle ressource et l'utiliser isolément. Donc l'usager perdra le bénéfice de ce qu'on lui proposait précédemment. Alors, obtenir des éditeurs une délégation du contrôle d'accès, donc là, il faut vraiment, dans le contrat, s'assurer que l'éditeur renonce à la création d'un compte spécifique. Et ça peut être une vraie bataille parce que pour l'éditeur, ça peut être intéressant de connaître la population des usagers de ces ressources numériques, parce que généralement, l'éditeur, son fonds de commerce, ce n'est pas principalement les bibliothèques. Il vise aussi un marché beaucoup plus large et il peut être, intéressé par la connaissance des usages directs du public. Donc, parfois, il y aura un peu, là, une partie de bras de fer, parce qu'il y aura un enjeu commercial pour l'éditeur, et vous, il y aura un autre enjeu qui est celui de la facilité d'accès à la ressource numérique, et puis le fait aussi que vous n'êtes pas là non plus pour faire la promotion de la ressource auprès de l'usager, que l'usager l'utilise dans vos murs, ok, mais vous n'êtes pas là pour l'aider, en fait, cet usager à sauter le pas pour acquérir directement auprès de l'éditeur et des ressources de même nature. Et enfin, il y a la mise en œuvre d'une solution d'authentification unique. Donc là, il va falloir que les éditeurs nous expliquent ce qu'ils supportent comme solution d'authentification unique. Et éventuellement, on va peut-être leur demander de se cadrer sur une solution d'authentification unique. Donc il y a des choses comme les serveurs CAS. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette solution technique, qui sont des solutions qu'utilisent beaucoup les universités. Les bibliothèques départementales aussi, je crois, dans certains projets. Mais ça devient assez technique. C'est parfois le fournisseur du SIGB qui met en place ces solutions techniques parce qu'il intervient à un moment où il a les éléments pour le faire. Il sait quelles ressources vous avez à votre catalogue. Il a les informations techniques. Il a généralement un catalogue lui-même de connecteurs. Et ces connecteurs prennent en charge généralement non seulement l'import des métadonnées, mais aussi la partie signature unique. Donc tout ce qui est en violet, a priori, ça devrait se traduire d'une manière ou d'une autre après par une clause dans votre marché. Après, il y a quand même quelques autres précautions. Donc il y a un peu ce que je viens de dire. L'éditeur, son fonds de commerce, ce n'est pas les bibliothèques. Je pense qu'on vous voit souvent comme des moyens de développer un peu le marché, qui est un marché qui n'est quand même pas peut-être tout à fait satisfaisant pour les éditeurs. Je pense que petit à petit, on accepte de payer pour des ressources numériques, mais ça vaut surtout pour la vidéo, parce que pour le reste, c'est un petit peu moins développé malgré tout. Et donc, ce qu'on pourrait craindre, c'est que l'éditeur ait à la fois cette tendance de vouloir bien qualifier les usages, de bien connaître les usagers, pour éventuellement essayer de pousser la vente de ses produits auprès des usagers, mais il pourrait aussi être tenté, parce que ça a beaucoup de valeur sur Internet, c'est de revendre les données d'usage à des tiers qui les exploiteront pour des fins un petit peu similaires. Donc il y a quand même une nécessité d'avoir des engagements très précis. Et on a une réglementation qui est un peu lourde, faut le reconnaître, mais qui veille vraiment à la protection des données personnelles, qui s'appelle le RGPD. Donc là, il doit y avoir aussi des engagements très précis de la part d'éditeurs de ressources numériques qui potentiellement accèdent à des informations personnelles relativement riches et variées. Donc après, ça dépend un peu des solutions techniques, mais c'est quand même un point important. Alors, le service que vous offrez, mieux vaudrait, puisque vous êtes une bibliothèque de lecture publique et que vous devez servir toute la population, que ce service soit aussi facilement accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc là, il y a une question d'accessibilité numérique. Et si l'éditeur vous livre une ressource numérique qui a des défauts d'accessibilité, vous allez effectivement proposer à des usagers des ressources qui ne seront pas accessibles pour les personnes en situation de handicap. Donc on sait exactement ce qu'il faut faire sur la question de l'accessibilité numérique. Les exigences d'accessibilité numérique, elles sont connues depuis plus de 20 ans. Il y a une réglementation française qui existe, qui a été reprise par une réglementation européenne. On sait ce qu'il faut faire. Techniquement, on sait ce qu'il faut faire aussi. Et donc là, il faut vraiment que l'éditeur vous dise, ça, effectivement, je vous garantis qu'une personne qui n'a pas l'usage de ses mains, qu'une personne qui ne voit pas, ou qu'une personne qui est dyslexique, là, ça va devenir difficile, hein, mais qu'il vous garantisse qu'effectivement, la ressource respecte ces exigences techniques qui sont précisément codifiées. Et on peut parler du RG2A, qui est la réglementation nationale, mais le RG2A reprend en fait les dispositifs internationaux que sont les WCAG et qui sont utilisés partout sur la planète. Donc si on vous dit après que vous imposez quelque chose de très spécifique, en pratique, ce n'est pas vrai. Hein. En pratique, les exigences sont les mêmes un peu partout sur la planète. Et quand il y a des différences, ça joue vraiment sur des pouillèmes. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est significatif pour l'usager. Donc par rapport à cette situation, qui est quand même une situation qui est un peu défavorable pour les bibliothèques, puisque vous êtes face à des ressources qui certes sont intéressantes, mais qui sont globalement peu coordonnées et peu homogènes, il y a pour moi trois démarches envisageables. Il y a celle finalement qui correspond probablement à l'exemple que j'ai présenté au début, c'est-à-dire de s'intéresser principalement, disons, à l'intérêt bibliothéconomique d'une ressource. De se dire cette ressource, elle est vraiment excellente en termes de contenu documentaire, en termes de ressources proposées. Hein. Donc, je vais la retenir, je vais m'y abonner et je verrai comment l'éditeur me propose de la mettre à disposition des usagers. Donc, quand on n'a qu'une ressource, à la limite, ce n'est pas dramatique. Mais ça va devenir compliqué du fait de la multiplication des ressources parce que se multipliera aussi des logiques d'accès et finalement, l'usager va être rapidement un petit peu paumé, et du coup, il va falloir que vous jongliez, vous, pour essayer de rendre ces ressources à peu près acceptables, avec une présentation en liste, comme on l'a vu tout à l'heure, en donnant peut-être quelques clés pour que les usagers les situent. Mais probablement qu'on constatera au bout d'un an que le résultat, en termes quantitatifs, n'est pas tout à fait à la hauteur des espérances. Et ce n'est pas forcément la ressource qui sera en cause, en fait. Hein. Ce sera vraiment les modalités d'accès à la ressource qui créeront beaucoup d'obstacles et beaucoup de complexité pour les usagers. Donc là, après, c'est sans espoir. En fait, tant qu'on reste dans ces approches-là, probablement, même si on change de ressource pour une autre, on aura probablement des résultats relativement similaires. Alors, la deuxième démarche, c'est une démarche qui vise finalement à faire un peu un compromis entre l'approche bibliothéconomique qui privilégierait les ressources intéressantes et l'approche technique qui privilégierait les ressources faciles d'accès ou en tout cas présentant des dispositifs techniques permettant de faciliter cet accès. Donc, grosso modo, ça revient à imposer un cadre technique aux éditeurs en disant, écoutez, si vous ne me proposez pas de charger les métadonnées sur mon outil de recherche, je ne veux pas de votre ressource. Et si vous ne proposez pas une solution de signature unique, j'en veux pas non plus. Donc, après, c'est un peu délicat parce que ça signifie que peut-être il faudra renoncer à une ressource qui est excellente. Mais est-ce que ça a du sens après de retenir des ressources qui seront sous-utilisées? Parce que techniquement, elles vont être vraiment très très difficiles d'accès pour 90% de vos usagers. En fait, c'est ce type de questions qui se posent à ce moment-là. Alors, on va voir que cette deuxième démarche, je vais la reprendre dans un tableau, c'est quand même celle qui est la plus exigeante pour vous. C'est-à-dire qu'il y a du boulot derrière. Vous allez y passer un petit peu de temps. Et il faudra dans les acteurs aussi que l'informatique, les services informatiques vous accompagnent. Au-delà de l'éditeur du SIGB, il y a besoin quand même de connaissances techniques assez particulières, surtout sur les solutions de signature unique. Et alors, la troisième démarche envisageable, c'est de retenir un prestataire intermédiaire, qui va vous proposer une solution technique qui organisera l'accès à toutes les ressources numériques et qui rendra cet accès le plus homogène possible. Donc, c'est des prestataires comme ceux qu'on a évoqués précédemment, type CVS, Archimède, EBSCO, qui proposent l'accès à une plateforme numérique dans lesquels on va trouver toutes les ressources numériques que vous avez voulu retenir. Donc, il y a parfois des différences significatives. Un CVS vous vend la ressource alors qu'Archimède vous vend la plateforme. Et vous êtes libre d'acheter les ressources séparément. Et dans ce cas de figure, en fait, en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue à ce fournisseur toutes les charges d'exploitation qu'on avait évoquées précédemment. C'est-à-dire le fait de paramétrer les chargeurs pour récupérer les métadonnées, le fait de mettre en place une solution de signature unique. Et donc, le prestataire va mettre en œuvre ses solutions techniques pour toutes les ressources numériques qu'il a à son catalogue. Et quelque part, il mutualisera cette charge, puisqu'en fait, vous devrez payer, certes, un coût d'accès supplémentaire, mais c'est théoriquement un coût d'accès qui sera réparti sur plusieurs clients. Donc, on pourrait, dans un monde idéal, considérer qu'économiquement, c'est la solution la plus intéressante parce qu'elle correspond à une mutualisation. Mais ça, c'est vrai s'il y a une vraie situation de concurrence entre les fournisseurs en question. Or, en fait, là, par rapport aux trois que je cite, ils ne sont pas vraiment en concurrence frontale. Les logiques sont trop différentes pour qu'il y ait une véritable mise en concurrence. Donc, en fait, là, je reprends les trois démarches. 1, 2, 3, c'est les trois démarches. La première démarche, c'est la démarche qui aboutit, en fait, à ce que l'usager, soit il abandonne, soit il abandonne pas, et vraiment, il s'arrache les cheveux parce que c'est lui qui est face à toute cette complexité d'accès. La deuxième démarche, c'est vous qui allez souffrir, bibliothécaire, parce que il va falloir, effectivement, au-delà des exigences communes que vous allez inscrire dans le marché du respect du RGPD ou du respect des référentiels d'accessibilité numérique, il va falloir que vous fassiez tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire que vous mettiez en œuvre une solution technique dispensant l'usager d'une création de compte et d'une identification sur le site de l'éditeur. Il va falloir que vous mettiez en place les chargeurs pour le service de recherche unifié et parfois, peut-être en complément, aussi des solutions techniques de recherche fédérée parce que ça ne sera pas possible de faire de la recherche unifiée ou parfois parce que ça ne sera pas opportun. Est-ce que vous voyez pourquoi parfois il ne faut pas faire de recherche unifiée? Ouais, voilà, c'est ça. Pendant un moment, MusicMe, je ne sais pas, il y avait 2 millions de morceaux, je crois, qui étaient décrits. Donc, il y avait les métadonnées de 2 millions de morceaux. Si vous versez ça dans l'outil de recherche, quelle que soit la recherche que vous faites, on va vous proposer de la musique. Et ça va finir par agacer les usagers. Donc, peut-être que là, cette ressource, compte tenu de son volume, il faut peut-être la mettre à part. Et du coup, ça pose des questions, parce que s'il y a un peu de musique dans la recherche unifiée, un peu de musique dans la recherche fédérée, on va recréer de la complexité. Donc, en fait, c'est à vous de faire cette synthèse-là. Si vous ne faites pas cette synthèse-là, l'usager, il est forcément confronté à une situation complexe. Et lui, il n'arrivera pas à bien analyser et à bien aboutir en fait, à des stratégies de recherche qui seront adaptées. Donc, il va passer à côté de 90% des ressources intéressantes que vous proposez. Et en fait, la dernière solution, qui est un peu la solution du riche quand même, c'est de mettre à disposition cette solution technique, que la plateforme de CVS, qui marche très bien, la plateforme d'Archimède aussi, que plusieurs bibliothèques départementales ont mise en place, ça marche aussi très très bien. Mais il faut voir si les conditions économiques sont satisfaisantes ou pas. Voilà, donc en termes de droit, là je vais passer vite parce qu'il aurait fallu peut-être un peu plus de temps, il y aura quand même à clarifier la question des droits qu'on veut obtenir et sur les métadonnées et sur les documents primaires. Sur les métadonnées, on va vouloir avoir déjà un droit de représentation, c'est-à-dire qu'il faut à tout moment, en tout lieu, pouvoir afficher les métadonnées relatives aux ressources numériques auxquelles on s'est abonné. Mais si on veut offrir un service de recherche unifié, il faut aussi qu'on ait le droit de reproduction, c'est-à-dire qu'on puisse copier la métadonnée pour la verser sur son outil. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément négociable auprès de vos fournisseurs si lui-même n'a pas le droit de diffusion de ces métadonnées. Et sur le document primaire, on est généralement plus sur un droit de représentation, c'est-à-dire que c'est la nécessité de pouvoir consulter à l'écran, mais si possible sur tout écran, en tout lieu, pour les usagers régulièrement inscrits, mais aussi dans les murs de la bibliothèque par des usagers non inscrits. Parce qu'en lecture publique, normalement, les collections ne doivent pas être réservées aux inscrits. Donc les gens qui sont venus sur place, théoriquement, il faut obtenir de l'éditeur que ces gens qui sont sur place puissent consulter sans s'identifier, parce qu'éventuellement, ils ne seront pas du tout inscrits. Voilà. Après, le droit de reproduction des documents primaires, j'en ai pas parlé, ça concerne PNB avec le prêt de livres numériques, puisque là, il y a une reproduction, mais là, les éditeurs n'oublieront pas de vous en parler de toute façon. C'est précisément encadré. Donc, en conclusion, donc, rendre les ressources numériques facilement accessibles, ça va être une tâche lourde et relativement complexe pour vous. Je pense que on trouve dans une collectivité quand même à peu près toutes les compétences pour le faire. Et Réseau Carrel amène vraiment énormément de matière pour engager la réflexion sur ce qu'il est pertinent de faire ou pas. Mais après, il y a quand même un complément de réflexion à faire, parce qu'en fonction de vos politiques d'acquisition, de vos choix d'acquisition, on va peut-être aboutir à un bouquet qui ne sera peut-être pas forcément facile de marier les ressources numériques entre elles pour aboutir à un service qui sera facile d'accès pour les usagers. Mais en fait, il n'y a pas de miracle. C'est tous les efforts que vous allez faire qui vont faire que derrière, l'usager va avoir une situation un petit peu plus facile et puis qui sera très content d'utiliser toutes vos ressources numériques. Donc, c'est un peu comme dans le traitement documentaire. Si vous ne faites pas un gros effort de mise en cohérence, de travail sur le descriptif, c'est l'usager qui se casse les dents derrière. Et sur les ressources numériques, en fait, on retrouve une problématique un petit peu similaire. C'est vraiment votre forte implication sur la question des usages et de l'organisation d'un accès fluide à ces ressources numériques qui fera que derrière, on trouvera une population d'usagers la plus vaste possible, et pas uniquement ceux qui connaissent déjà les ressources numériques. Voilà, je vous ai tout dit de ce que je savais là-dessus. Il n'y a pas de question, c'est que je vous ai découragé, donc ça n'a pas allé. Il était beau qu'il y ait une question.
J'ai une question.
Ouais, ah.
En fait, il y en a plein, mais je pense que ce sur quoi on bute, on en parle avec Guillaume à Grenoble, on en parle avec mes collègues du Sillon Lorrain. Qu'est-ce qu'on fait en cas de manquement aux obligations du marché? Jusqu'où on va?
Genre, on ne renouvelle pas l'abonnement, on a peut-être
Ouais.
prévu des clauses, des pénalités, mais bon, c'est compliqué. Les éditeurs ont aussi des marges de manœuvre qui sont réduites bien souvent. Donc, du coup,
Bien sûr.
il y a forcément une négociation. Enfin, ce n'est quand même pas des marchés publics comme les autres. Il faut quand même, comme l'ont expliqué les collègues de la BPI, il faut quand même savoir un petit peu le domaine du possible chez l'éditeur. Ça ne sert à rien d'imposer des choses qui, après, ne pourront pas être tenues, parce que même les pénalités, on ne les appliquera pas, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Donc,
C'est pour ça
et
que je
c'est
vous
en ça
posais
que
la
le boulot de
question.
Réseau Carrel est essentiel, parce que vous pouvez arriver à savoir ce qui est possible ou pas. Mais une bibliothèque individuellement, enfin bon, la démarche qu'on a vue tout à l'heure, vous n'allez pas tous la mettre en place, ce n'est pas possible. Si Réseau Carrel ne mutualise pas, elle ne le fait pas pour votre compte, il va falloir que dans vos établissements, il y ait une personne qui fasse ça à temps plein. Et c'est généralement pas possible. Enfin, ça dépend de la taille des établissements. Donc là, vraiment, la mutualisation au sein de Réseau Carrel, c'est pour moi essentiel. Hein. On s'en sortira pas sinon.
Peut-être, je sais qu'il y en
Didier
a
Thébault
au
voulait
niveau du
intervenir.
sillon, je vais peut-être spoiler l'intervention de tout à l'heure, mais parler en fait d'exemples réussis de négociations après coup.
Oui, Frédéric Zadka pour le Sillon Lorrain et la Bibliothèque L'Immédiat. Par rapport à ce que disait Fabien et les négociations qu'on peut avoir, nous, on a eu un exemple sur des clauses, effectivement, et pour appliquer les pénalités, on a fait des négociations puisque la ressource n'était pas disponible, il y avait une montée de version qui ne s'est pas fait dans les temps, si c'est l'exemple auquel tu penses. Le vrai souci, c'est l'accès à l'information et comment on justifie qu'on n'a pas respecté le marché. Et donc, quels sont les capteurs qu'on arrive à mettre? Et notamment dans les différents modèles de plateforme, nous, on est sur le modèle 2, très clairement, hein, où on fait tout, mais parce qu'on est déjà un réseau mutualisé. L'accès à l'information sur un modèle 3 avec un intermédiaire d'agrégateur, vous l'aurez quoi? Et nous, comme on a fait, alors donc, c'était une plateforme de presse. On a constaté l'indisponibilité, on a constaté le défaut d'information de la montée de version, donc il était très clairement en tort. Et là, on a négocié après, puisque les pénalités, effectivement, sont très difficilement applicables. Et ils nous ont proposé une remise, enfin pas une remise, hein, on a fait un avenant pour constater une baisse, demander une baisse de tarif, quoi. Ce qui arrivera peut-être, alors pas dans notre réseau puisqu'on a l'équipe, mais en cas de diminution qualitative du catalogue. Après, tout va être en droit, c'est toujours pareil. C'est au-delà de la question de droit, c'est la question de fait. Comment on arrive à justifier qu'il y a eu un défaut d'obligation, quoi, de sa part, quoi.
ça introduit quand même l'idée de performance aussi. C'est quand même important, peut-être, qu'il y ait des engagements vérifiables et quantifiables du type taux de disponibilité de la ressource,
alors,
temps de rétablissement, temps de réponse, etc., pour qu'on puisse essayer de faire des mesures et puis de les opposer à l'éditeur. Mais ça ne réglera pas tout.
Non, ça ne réglera pas tout. Et on est toujours, de toute façon, dans une relation contractuelle, donc dans un dialogue qui doit être en permanence. Mais c'est ça aussi. Et par rapport au cahier des charges, quels sont les critères qualitatifs? Tout à l'heure, dans la roue de la fortune, la roue du marché et de la vie du réseau, il y avait l'évaluation. L'évaluation, elle peut pas être. C'est en fait, au-delà de l'évaluation, c'est le monitoring, quoi. Et comment le monitoring, on arrive à le mettre dans le cahier des charges. Donc, c'est les disponibilités de la ressource, c'est quel taux, à quel usager, en fait, c'est tout ça. Et effectivement, je pense, pour une bibliothèque seule, c'est très compliqué si ce n'est pas partagé, quoi.
Je voulais revenir sur l'accessibilité et le RG2A pour évoquer le baromètre de l'accessibilité numérique. Depuis trois éditions de ce baromètre lancé par le ministère de la Culture, où on a testé les portails et les ressources numériques en partenariat avec Réseau Carrel, on voit que la faiblesse se situe au niveau de la ressource numérique. On accède facilement... Enfin, il y a eu des efforts de fait par les éditeurs de SIGB pour les portails. Il y a encore des améliorations à apporter, notamment dans la formation des bibliothécaires qui éditent le portail en termes d'accessibilité. Mais le point faible de ce baromètre reste, depuis 2014, les ressources numériques et l'accès aux ressources numériques qui sont très peu, voire pas du tout, accessibles au sens RG2A du terme.
Oui, effectivement, pour répondre à votre remarque, ça, c'est très clair, hein. Donc, à chaque négociation, en fait, on sensibilise l'éditeur pour qu'il adopte une démarche accessibilité. Alors, pour des grosses entreprises, surtout à l'étranger, hein, canadiennes, bon, elles ont fait le développement. Mais c'est vrai que pour les petites structures du type start-up, c'est beaucoup moins évident. Donc, on les renvoie aux référentiels qui ont été nommés. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de tester. Vous voyez, par exemple, PressReader, ils ont mis en place une version accessible. Et ma collègue Julie Duprat l'a fait tester avec notre collègue non-voyant. Et les retours ont été renvoyés à l'éditeur de façon à ce qu'il améliore une plateforme qui était déjà censée être accessible. Voilà.
Alors, je ne sais pas s'il y a une question au bout, mais c'est un questionnement que j'ai, donc je vais le faire tout haut. Donc, par rapport aux trois attitudes que peut avoir la bibliothèque face aux... Alors, je suis entièrement d'accord avec vous sur les constats, c'est vraiment très clair. Là où je m'interroge... Alors, je vais être un petit peu brute peut-être de décoffrage pour aller au fait, mais je reviens à la question des connecteurs. Alors, je suis entièrement d'accord que... Tout travail mérite salaire et que, évidemment, c'est un très gros travail. Pour l'avoir fait dans une autre bibliothèque, je sais que c'est extrêmement coûteux en ressources humaines et en temps. Mais ça, ce n'est que mon avis. C'est quasiment impossible à tenir sur la longueur. Mais bon, ce n'est que mon avis. Donc, moi, en tant que bibliothèque, il y a un moment où, si effectivement je veux que les résultats de mes recherches numériques, de mes ressources numériques apparaissent au même titre qu'un livre imprimé ou qu'un CD, je passe peut-être par un connecteur ou par une recherche unifiée ou par un moissonnage de métadonnées, peu importe. Ce qui m'interroge, moi, c'est pourquoi j'irais payer un connecteur, voire un intermédiaire, si, à la base, les métadonnées sont... vide ou nul ou je ne sais pas ou inexploitable, parce que aujourd'hui notre problème c'est quand même celui-là. Donc avant de se dire ok on passe par un tiers, bon, outre le fait qu'on perd totalement la maîtrise de nos données, ce qui n'est pas quand même une mince affaire je trouve, et qu'on ne voit pas sous le capot, c'est-à-dire moi si je passe par CVS je vais pas voir les métadonnées qu'il y a derrière, c'est CVS qui s'en charge. Je ne vais pas voir les négociations qu'il a avec l'éditeur, c'est CVS qui s'en charge.
Oui, c'est une boîte noire.
Voilà. Alors, bon, personnellement, mais peut-être parce que je parle du côté BPI, hein, ça je ne m'en rends pas forcément compte, donc je préfère le dire. Mais personnellement, voilà, j'ai quand même cette réticence. Mais là où je... C'est que peut-être pour arriver à cette étape-là, il faudrait déjà que les métadonnées soient des bonnes métadonnées, des métadonnées utilisables. Et là, bon, moi je m'exprime pour celles que je connais, que j'ai vues. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais il y a du travail, quoi. Il y a du travail.
C'est un vrai problème. Et si les métadonnées sont de très mauvaise qualité, la ressource numérique, il ne faut pas l'acquérir. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Bah, parce que les métadonnées, c'est le point de passage obligé pour accéder à la ressource en question. Donc, ça va au-delà de la question sur les solutions techniques, en fait, en pratique. Et je ne sais pas si les éditeurs améliorent la qualité de leurs métadonnées. Je ne sais pas si ça améliore, si vous avez une visibilité là-dessus. Oui.
Je vais vous laisser poser votre question et après, ce sera la dernière.
Pour être avec CVS, justement, oui, ils font des efforts là-dessus. Après, il y a une certaine opacité, évidemment, sur le modèle. Par ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, en fait, comme le modèle économique repose essentiellement et de manière intéressée, j'ai envie de dire, sur le cinéma, qui est la ressource qui les paye, évidemment, ils n'ont pas forcément intérêt à développer les autres ressources. Et donc, là, ce que j'ajouterais à ce que vous avez dit, qu'il n'y a rien à redire, c'est que par rapport à ce modèle 3, le point de vigilance à avoir en tant que collectivité, c'est de veiller à ce qu'il y a un vrai développement, enfin, en tous les cas, des conditions très, on va dire, déterminées dans le marché, pour ce que le prestataire développe, continue à développer son offre en dehors du cinéma. Parce qu'en fait, on se retrouve vite bloqué, en fait. Oui. Quand on est évidemment une grosse collectivité, qu'on choisit ce type de solution, parce qu'il faut être une grosse collectivité pour choisir ce type de solution, et pas se retrouver coincé avec un choix trop limité en ressources, et de fait, de se retrouver avec un modèle qui s'appauvrit en contenu, ce qui est quand même... le paradoxe, du coup, oui. Au final. Donc voilà, en tous les cas, je voulais juste ajouter ce point de vigilance sur la qualité des contenus et qui est essentiel quand on parle de bibliothèque. Quoi.
Ça souligne les enjeux aussi des échanges avec une entreprise comme CVS. Je ne sais pas si vous avez pu les inscrire à votre catalogue et donc vous avez pu... Non, oui, voilà, c'est ça. C'est une situation qui est quand même un peu particulière.
Oui, par rapport à CVS, en fait, CVS n'a aucun intérêt à publier sa grille tarifaire, clairement. Donc, en fait, ils ne seront pas référencés au catalogue Carole. Bien sûr, on a des échanges avec CVS parce que c'est un acteur important, mais la grille, même la grille tarifaire de leur offre qui distribue en exclusivité, c'est-à-dire leur offre de cinéma, on la connaît. On connaît le principe, mais elle est impossible à publier, en fait. Leur principe tarifaire est impossible à publier. Et je pense que c'est... Voilà. Après, CVS, c'est un acteur important. Hein. Donc, bien sûr qu'on continue d'échanger avec eux, même s'ils ne sont pas au catalogue Carole. Après, c'est très opaque, tant pour les éditeurs, je pense, que pour les bibliothèques. Hein. Voilà.
Pour rebondir de manière un peu positive sur tout le travail que fait l'association et que tu fais, Emmanuel, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue au long cours et qui est pas de l'ordre du dit ou de la grille et qui fait qu'ils nous comprennent quand même à la fin. Hein, et quand on parle avec eux, ils finissent par comprendre nos besoins et adapter leur modèle. Donc effectivement, avec un modèle comme CVS, c'est pas adaptable à nos exigences. Mais derrière, en sous-main, il y a quand même quelque chose qui se joue, qui, à mon avis, est positif. Donc il faut continuer les discussions et les négociations. Et c'est pour ça que je disais aussi, nous, on fournit une sorte de base et puis on discute pour toutes les bibliothèques, mais il ne faut vraiment pas hésiter, quoi, quand vous lancez un marché, à discuter directement auprès des fournisseurs avec.
Ouais.
Oui, qu'on soit bien clair, hein, CVS, il rencontre du succès parce qu'il répond aux besoins des bibliothèques. Hein. Sinon, ça ne marcherait pas.
Merci beaucoup pour ces échanges. On va les arrêter maintenant puisqu'il est midi. Vous avez la possibilité, la salle va être fermée. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de laisser vos affaires. On fera un accueil ici à partir d'une heure et quart. Et ça reprendra à une heure et demie. Les intervenants de la journée sont invités à rejoindre Fabien. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.